Chapitre 9e. Les mois de janvier et de février se passèrent sans amener de nouveaux événements dans la famille de Longbourn, dont les plus grands divertissements étaient de fréquentes promenades à Meryton, tantôt par le froid, tantôt par l'humidité. Au mois de mars, on devait emmener Elizabeth à Hunsford. Elle n'avait pas d'abord pensé sérieusement à y aller, mais voyant que Charlotte comptait sur elle, peu à peu elle commença à s'en faire un plaisir. L'absence lui avait fait sentir le besoin de revoir son ami et avait diminué son aversion contre Mr. Collins. Ce voyage avait pour elle le charme de la nouveauté, et avec une mère et des sœurs qui lui offraient si peu de ressources pour la société, l'intérieur de la maison ne devait pas être fort agréable. Un peu de changement devenait nécessaire. Cette course devait surtout lui procurer le plaisir de voir Jane, puisqu'il fallait passer par Londres. Enfin, plus le moment approchait, et plus elle aurait été fâchée qu'il survînt quelque retard. Son seul chagrin était de quitter son père à qui elle était très nécessaire et qui eut tant de regrets en la voyant partir qu'il la pria de lui écrire et promit presque de lui répondre. Mr. Wickham parut fâché de son départ. La cour dont il était occupé dans ce moment ne lui avait point fait oublier qu'Elizabeth avait été la première femme du pays à laquelle il avait adressé ses hommages et la première à l'écouter comme à le plaindre. En lui disant adieu, il lui rappela tout ce qu'elle devait attendre de Lady Catherine de Bourg et espéra que l'idée qu'elle en allait prendre serait conforme à celle qu'il lui en avait donnée. Enfin, il parut si plein d'intérêt et de sollicitude pour tout ce qui concernait Elizabeth qu'elle le quitta persuadée que, marié ou non, il serait toujours un modèle d'amabilité et d'agrément. Ses compagnons de voyage n'étaient pas propres à le faire paraître moins aimable. Sir William et sa fille Marie, qui étaient une excellente personne, mais aussi dépourvu d'esprit que lui, n'avait rien à dire qui fût digne d'attention. Les ridicules amusaient beaucoup Elizabeth, mais elle connaissait trop à fond ceux de Sir Williams, les circonstances remarquables de sa présentation à Saint James et les raffinements de son excessive politesse étaient usés pour elle et ne pouvaient plus fournir à son divertissement. Ils étaient partis de si bonne heure qu'ils arrivèrent à midi dans Church Street. Lorsque la voiture s'arrêta devant la maison de Mr. Gardiner, Jane attendait à la fenêtre l'arrivée de sa sœur. Elle se précipita au bas de l'escalier pour la recevoir. Dès le premier coup d'œil, Elizabeth eut le plaisir de la retrouver plus jolie que jamais, et avec toute l'apparence de la santé. Elle était accompagnée d'une bande d'enfants que l'impatience de voir leur cousine avait fait venir sur l'escalier et que la timidité retenait cependant un peu en arrière. La journée se passa très agréablement, le matin à courir les boutiques et le soir au théâtre. Elizabeth put alors s'asseoir à côté de sa tante et s'entretenir avec elle de ce qui l'intéressait le plus. Elle fut très affligée d'apprendre que Jane, malgré tous ses efforts, était souvent très abattue. Il fallait cependant espérer qu'elle finirait par se remettre tout à fait. Mrs. Gardiner lui raconta en détail la visite de Miss Bingley, ainsi que plusieurs conversations qu'elle avait eues avec Jane, et dont le résultat était que Jane avait tout à fait renoncé à cette liaison. Mrs. Gardiner plaisanta ensuite sa nièce sur la désertion de Mr. Wickham et la félicita sur la manière dont elle supportait ce malheur. « Dites-moi, ma chère Elizabeth, ajouta-t-elle, quelle femme est Miss King? Je serais fâchée s'il n'était guidé que par l'intérêt. Mais je vous prie, ma tante, lorsqu'il s'agit de mariage, quelle est la différence entre un motif intéressé et la prudence qu'on nous recommande tant? À Noël dernier, vous aviez la crainte que je ne l'épousasse. C'eût été une folie, disiez-vous. Et maintenant, parce qu'il recherche une femme qui a seulement 10 000 livres, vous l'accusez d'être intéressé. Si vous voulez me dire seulement quelle espèce de femme est Miss King, je saurais alors qu'en penser. Je crois que c'est une très bonne personne. Je n'en ai entendu dire aucun mal. Mais ne l'avait-il jamais remarqué avant que la mort de son grand-père lui rendît maîtresse de cette fortune? Non. Pourquoi l'aurait-il remarqué, s'il ne lui était pas permis de chercher à obtenir ma tendresse? Parce que je n'avais pas assez de fortune, pourquoi aurait-il fait sa cour à une personne qui ne lui plaisait pas et qui était aussi pauvre que moi? Mais il me semble qu'il manque de délicatesse en lui adressant ses vœux si vite après cet événement. Un homme qui se trouve dans une position gênée n'a pas le temps d'observer le même décorum que les autres. D'ailleurs, si elle ne fait point d'objection elle-même, pourquoi en ferions-nous? Cela ne suffit pas pour le justifier. Cela prouve seulement que Miss King a peu de jugement et de sensibilité. Eh bien, s'écria Elizabeth, « choisissez, puisque vous voulez absolument que Miss King soit folle ou que Mr. Wickham soit intéressé. » « Non, Lizzie, C'est une chose que je ne puis prononcer, puisque vous savez bien que je serais très fâché d'avoir une mauvaise opinion d'un homme que je regarde presque comme mon compatriote. Il a vécu si longtemps dans le Derbyshire. Oh, si ce n'est que cela, j'ai peu bonne opinion des hommes qui ont vécu dans le Derbyshire et de leurs amis intimes qui ont demeuré dans le Hertfordshire. Je suis las de tous. Dieu merci, je vais demain dans un pays où je trouve un homme qui n'a pas une seule qualité agréable et dont les manières et le jugement ne peuvent pas le rendre le moins du monde intéressant. Après tout, les hommes tout à fait stupides sont les seuls qu'on puisse connaître. Prenez garde, Lizzie, que ce discours ne décèle trop le désappointement. Avant de terminer la journée, Elisabeth eut le bonheur inespéré de recevoir de son oncle et de sa tante l'invitation de les accompagner dans un petit voyage de plaisir qu'ils se proposaient de faire dans le courant de l'été. « Nous ne sommes pas encore bien décidés où nous irons, » dit Mrs. Gardiner, « peut-être au lac. » Aucune proposition ne pouvait être plus agréable à Elisabeth, aussi l'accepta-t-elle avec la reconnaissance la plus vive et la plus expansive. « ma chère bonne tante, » s'écriait-elle dans son transport, « quelle délice! Quelle félicité! Vous me donnez une nouvelle vie! Adieu les désappointements, la mélancolie! Que sont les hommes en comparaison des rochers, des montagnes? Quelles heures de ravissement nous allons passer! Lorsque nous reviendrons, je ne serai pas, comme les autres voyageurs, incapable de donner une idée exacte de ce que nous avons vu. Nous connaîtrons à fond le pays que nous aurons parcouru. Nous nous rappellerons tout. Les lacs, les montagnes, les rivières ne seront pas confondus dans notre tête quand nous voudrons raconter quelques scènes particulières. Nous ne commencerons pas par nous disputer sur le lieu où elle s'est passée, et nos descriptions seront peut-être moins ennuyeuses que celles de la plupart des voyageurs.